Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme, aujourd'hui autour de Le Grand Soir, voyage dans l'imaginaire révolutionnaire et libertaire de la Belle Époque, paru aux éditions Libertalia en 2017, et nous sommes avec l'autrice de cet ouvrage très intéressant et très recherché, donc qui est basé sur un travail d'archives très intéressant. Et donc, dans la première partie de cette émission, avec Aurélie Carrier, nous avons parlé de l'imaginaire du grand soir. Et maintenant, on va passer un petit peu plus à l'aspect pratique, c'est-à-dire au fait que le 1er mai 1906 a été conçu à la fois comme l'espoir d'un grand soir, d'un bouleversement révolutionnaire, ou au moins, peut-être plus pragmatiquement, comme la possibilité d'obtenir la journée de 8 heures, hein, qui est une revendication ancienne du mouvement ouvrier. Et en même temps, comment est-ce que cette idée du grand soir et de la grève générale du 1er 1906 va être instrumentalisée par la presse conservatrice et par la République pour créer un climat défavorable, justement, à une transformation sociale.
Donc, au congrès de Bourges, en septembre 1904, au congrès de la CGT, il est décidé de faire du 1er mai 1906 une date pour l'obtention de cette revendication de la journée de 8 heures, qui est une revendication d'une part assez ancienne, et notamment par la voix d'Émile Pouget, donc, qui était le principal rédacteur du journal Le Père Pénard, journal anarchiste très très argotique, très très faubourien, qui est à la fois secrétaire, je crois, adjoint de la CGT et qui en même temps dirige l'hebdomadaire confédéral La Voix du Peuple à partir de 1901. Et donc il s'est beaucoup renseigné, enfin documenté sur le mouvement pour les 8 heures, notamment aux États-Unis, en 1886 à Chicago, qui est le premier mai de l'histoire. Enfin, dès 1901 et puis jusqu'à 1904, il parle énormément de cette revendication et de la tactique employée par les syndicalistes américains de l'époque, en disant qu'il faut reprendre leur tactique. Donc, leur tactique, quelle est-elle? C'est l'idée de faire ce qu'ils appellent une campagne d'agitation et de propagande. Qui va monter comme ça crescendo de la fin 1904 jusqu'au 1er mai 1906, avec l'idée d'une part d'ancrer dans les consciences ouvrières cette idée de la revendication des 8 heures, et si possible aussi de l'élargir à l'opinion tout entière. Et il voit ça comme une sorte de gymnastique en fait révolutionnaire. Où il n'est pas forcément toujours question de la grève générale, et d'ailleurs elle ne fait même pas partie du texte de la motion qui est adoptée ce jour-là, comme si elle était plus ou moins sous-entendue. Mais voilà, c'est une sorte de, encore une fois, le syndicalisme pensé comme une éducation en fait ouvrière. Donc à partir d'octobre et jusqu'au 1er mai 1906, ça va donc monter petit à petit. Beaucoup de choses sont faites. D'une part, des brochures sont éditées sur les bienfaits de la journée de 8 heures. On en vient même jusqu'à dire que la journée de 8 heures est même profitable au patron, puisque l'ouvrier, plus reposé, travaillera mieux. Avec aussi une notion assez neuve, qui est celle du loisir, qui est encore une notion toute bourgeoise et l'idée de repos vraiment réparateur et de loisirs ou de temps passé en famille qui est peu connue du monde ouvrier. Et voilà, et donc des brochures, énormément d'affiches, des meetings, et que ce soit à Paris ou dans tout le reste de la France, des sortes d'émissaires en fait de la CGT se déplacent pour un peu porter la bonne parole. Dans cette stratégie, on va dire, qui est construite, le 1er mai 1905 faisant figure un peu de test, au lendemain du 1er mai 1905, notamment, par exemple, Victor Griffuel, Émile Pouget, ceux qui sont à la tête de la CGT, se disent que bon, il faut continuer la propagande, mais ils ont quand même bon espoir. Et il y a aussi toute une campagne donc d'affichage, par exemple, que j'ai retrouvé, qui est assez sympa aux Archives nationales, de tous ces petits, enfin des petits papillons de toutes les couleurs, où justement souvent penser effectivement comme une dans un temps très binaire. Par exemple, on a une petite fille qui est toute faible, rachitique, et parce qu'elle travaille, c'est la journée de 10 heures et la journée de 8 heures, on la voit, elle est en pleine forme. Enfin voilà, donc, et beaucoup de, par exemple, préparer, revendiquer les 8 heures, c'est préparer l'avenir, c'est préparer la grève générale. Enfin voilà, le mot d'ordre, se décline vraiment de plusieurs façons. Donc tout ça est suivi, bien sûr, très attentivement, notamment par le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police. Mais dans un premier temps, c'est assez, on va dire qu'ils ne sont pas forcément très effrayés. Enfin, ils se disent, bon, la CGT prépare le 1er mai 1906. Bon. Et finalement, vraiment, c'est à partir de janvier, enfin, dans les quelques mois avant le 1er mai, que ça s'accélère. D'une part, parce qu'encore une fois, la campagne s'intensifie. Et on verra après, en fait, à l'été 1906, quand la CGT dressera une sorte de bilan et fera les comptes, que l'énergie déployée est assez impressionnante par rapport au peu de moyens que pouvait avoir la Confédération pour mener cette campagne. Et donc, à partir de janvier, février, etc. Et il y a un événement très marquant qui va être la catastrophe de Courrières en mars 1906. Donc dans le bassin minier, en fait, dans les mines de Courrières, une explosion survient et plus de 1100 mineurs meurent. Bien sûr, au début, au désespoir des familles et des mineurs qui sont remontés, va succéder bien sûr la colère, et d'autant que alors on prouve très rapidement que la compagnie bien sûr est responsable. Et alors que dans les premiers temps, la presse, que ce soit la presse généraliste, par exemple, comme Le Petit Journal ou des journaux à fort tirage à l'époque, ou comme Le Petit Parisien aussi, qui s'efforcent d'être un peu souvent dans une ligne très consensuelle, puisque voilà, ils ont beaucoup de lecteurs et enfin, pas forcément très très marqués, ou des journaux plus marqués à droite, ils envoient tous des envoyés spéciaux. Il y a une sorte d'empathie avec le mineur parce que c'est un métier qui est difficile, qui est quand même respectable, etc. Donc il y a une sorte d'empathie face à la catastrophe. Et plus la colère va monter et le mouvement s'organiser et après la grève débuter, plus le discours en fait va changer. Et l'un des temps forts de ce mois de mars, c'est justement une quinzaine de jours après, quand une vingtaine de mineurs ressortent par eux-mêmes de la mine alors que les fouilles avaient été arrêtées. Et donc là, voilà, alors que déjà le climat était explosif, là, c'est ce qui permet de vraiment lancer la grève.
Parce que ça veut dire en fait que tous les gens qui sont morts, en réalité, une bonne partie aurait pu être sauvée si les ingénieurs et la compagnie n'avaient pas fait fermer les mines très rapidement pour sauver le stock de charbon, quoi.
Bah, en tout cas, enfin, pour ce qui est de l'explosion en elle-même, il est montré que les travaux de mise en sécurité, quoi, n'avaient pas été faits, donc ont entraîné l'explosion. Et effectivement, après, les recherches ont été stoppées très vite.
Et alors, du coup, pour revenir à ce moment charnière de la grève des mineurs de Courrières, là, on voit que, comme tu dis, il y a un basculement de la presse, mais aussi du gouvernement, puisque Clémenceau, au début, vient en disant, avec un discours très conciliateur, et ensuite, il va envoyer, je crois, 20 000 soldats pour calmer, les mineurs. Et là, on va passer, disons, dans une atmosphère très répressive qui va durer jusqu'au 1er mai 1906 inclus. Est-ce que tu peux du coup nous décrire un peu cette atmosphère répressive, à la fois, disons, dans les discours de la presse de droite, mais aussi du gouvernement, et aussi parler de l'imaginaire un peu du complot qui va y avoir, l'idée, parce que Aujourd'hui, on associe beaucoup le complot, bon, évidemment, à l'extrême droite. Donc là, effectivement, il y a un imaginaire du complot. Il y a un imaginaire d'une espèce de complot cégétiste. Hein. Il ne faut pas attendre le bolchevique, le couteau entre les dents. Hein. C'est un imaginaire qui existe déjà avant, qui existe même avant 1906, puisqu'il y a déjà l'imaginaire du complot anarchiste mondial. Donc là, il y a le complot de la Confédération pour détruire la France, voilà, qui exalte l'extrême droite, la presse d'extrême droite. Et puis après, il y a aussi un thème du complot aussi qui est développé par le gouvernement, assez invraisemblable, d'une alliance entre les monarchistes et les anarchistes. Il faudra attendre peut-être Trotsky pour avoir l'idée de cette fameuse alliance.
Si on s'inscrit dans un temps un tout petit peu plus long qu'à l'échelle de quelques semaines ou mois, on va dire du point de vue ouvrier ou révolutionnaire, on voit, enfin, on pressent en tout cas que vraiment qu'il y a un espoir, en tout cas, qui est là à la veille du 1er mai. D'autant que, en tout cas, si on prend, encore une fois, la voix du peuple, c'est de 1904 à 1906, il n'y a pas un numéro où il n'est pas question du mouvement pour la journée de 8 heures. Enfin, voilà, Pouget disait vraiment, il faut obséder les cerveaux, il faut ancrer cette idée. Donc, voilà, il insistait beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, dans le mouvement socialiste, donc, qui est une revue proche du syndicaliste révolutionnaire à l'époque, donc, le 15 avril, un des rédacteurs écrit « À l'heure actuelle, les ouvriers qui participent au mouvement des 8 heures ont la pensée tendue vers la grève générale, vers le bouleversement final. » Donc on est quand même dans un climat presque, encore une fois, là, messianique. On a, Anne Chénier en parle dans son livre « Le goût de l'émeute » de sidérurgistes lorrains qui, dans leur usine, ont mis en place un décompte. Dans tant de jours, nous serons libres, ou dans tant de jours, ce sera la révolution. Enfin, voilà, donc il y a quand même un peu ce climat, même si il faut faire, encore une fois, attention peut-être à un peu l'effet de source et ne pas trop s'emballer, mais on a un vrai espoir qui est là. Et qui, bien sûr, attire l'attention. Alors, à partir du mois de février 1906, il y a notamment un journal Le Matin, mais surtout L'Écho de Paris, qui est un journal réactionnaire qui est surtout lu par la bourgeoisie parisienne, qui va, enfin, à la manière d'un roman feuilleton, faire une chronique quotidienne qui s'intitule « La révolution qui vient ». Et chaque jour, il va être question voilà, de décrire comment, finalement, enfin, pour faire très, très bref, comment la CGT prépare le grand soir pour le 1er mai. Et en fait, il y a plusieurs façons de lire cette sorte de cette pseudo-enquête, parce que eux, ils appellent ça une enquête. D'une part, il y a tout un vocabulaire que l'on retrouve aujourd'hui, donc où il est question des gréviculteurs de la CGT qui vont affamer la France, qui vont nuire à sa puissance économique, etc. Enfin, donc un discours très militariste, en fait, qui présente la CGT comme une armée avec son siège qui est rue de la Grange-Aubel, son état-major avec Pouget, Griffuels, Lévy, etc. Enfin, donc tout ce vocabulaire-là, centré d'une part sur la CGT, et en fait, une chose un tout petit peu plus subtile, même si ça ne l'est pas toujours, c'est que le but de cette campagne, outre d'agiter vraiment ce chiffon rouge, quoi, de la révolution, c'est aussi pour atteindre le pouvoir en la personne, enfin, pas que Clémenceau, mais parce que ce sont les radicaux, donc du parti radical, hein, qui sont au gouvernement. Et d'expliquer ça permet aussi de comprendre en partie aussi la réaction que va avoir Clémenceau. Et il faut savoir que 3 semaines après le 1er mai, il y aura des élections législatives où, encore une fois, faire bref, en gros, le parti conservateur espère bien, et clérical, espère bien reprendre la majorité. Et où on voit que s'affronte là vraiment deux visions, en fait, de la France. On a d'un côté cette France en voie de laïcisation républicaine, qui, dans une certaine mesure, reprend, comme on disait tout à l'heure, l'héritage de la Révolution française, etc., qui est quand même bien établi maintenant en 1906, et de l'autre, cette France encore chrétienne qui vient de connaître la violence qui était jusqu'alors réservée justement aux grévistes et aux ouvriers, la violence au moment de
l'instauration de la loi de 1905.
Voilà, de quand on a fait les inventaires. Donc voilà. Et notamment l'Écho de Paris, mais d'autres journaux comme par exemple le journal monarchiste Le Gaulois mènent une vraie campagne en fait d'affolement en disant que la CGT va mettre Paris à feu, enfin Paris notamment parce que c'est beaucoup centré sur Paris quand même, Paris à feu et à sang, et que en fait les meilleurs amis de la Révolution sont au gouvernement en la personne soit d'Aristide Briand soit de Clémenceau. Et c'est vrai qu'à partir de la catastrophe de Courrières et les grèves qui vont avoir lieu dans le Nord, et donc notamment à Lens, mais il y a aussi eu quand même pas mal de mouvements, par exemple dans les arsenaux à Toulon, à Brest, et puis dans d'autres lieux en France. Mais pareil, là, ils vont envoyer des envoyés spéciaux, enfin, ils vont vraiment couvrir les événements en disant qu'on est au bord de la catastrophe. Et donc Clémenceau, effectivement, qui vient d'être fraîchement nommé ministre de l'Intérieur en mars 1906, ça, c'est quand il va à Courrières et à Lens, c'est sa première visite. Il se veut un peu en pacificateur, on va dire. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, si tant qu'il n'y a pas de violence, je n'enverrai pas l'armée. Et finalement, deux jours ou trois jours après, je ne sais plus, il ne tient pas parole et il envoie l'armée. Et il y a des affrontements, notamment avec les grévistes de ce bassin minier-là. Si bien que la tension est assez forte, surtout le mois de mars-avril. On pourrait faire une émission spéciale sur les mineurs, qui sont une corporation très spécifique quoi, dans la CGT, puisque les mineurs, ça fait longtemps en fait, quand même, qu'ils sont organisés. Il y a ce qu'on appelle le vieux syndicat, qui est un syndicat réformiste qui est très attaché justement à un syndicat de négociation quoi, entre ouvriers, patronat et État, et qui compte. Enfin, il y a ce qu'on appelle des députés mineurs à l'Assemblée, donc il y a un peu cet état d'esprit là. Et aux alentours de, j'ai plus d'attente en tête, mais tout début XXe siècle, des personnages comme Benoît Broutchou, une figure assez charismatique, enfin des anarchistes ou des syndicalistes révolutionnaires vont monter donc ce qu'on appellera en opposition le jeune syndicat, et qui vont être vraiment eux là les fers de lance de la grève, et en essayant de porter ce mouvement, enfin de l'inscrire aussi dans le mouvement des 8 heures. Sauf que malheureusement pour la réussite du mouvement du 1er mai, très peu de temps, enfin quelques jours à peine avant le 1er mai, les mineurs en fait reprennent le travail.
Et du coup, on voit qu'on est dans les jours et les semaines qui précèdent le 1er mai 1906, dans une espèce de bataille entre trois acteurs. Donc la CGT qui a son objectif d'inscrire la journée des 8 heures avec toujours cet imaginaire un petit peu du grand soir. Et d'un autre côté, ces deux adversaires qui accusent la CGT d'être en fait alliés avec leur propre adversaire. Donc la presse réactionnaire qui accuse en gros Clémenceau d'être quasiment un agent de la CGT, ce qui fait quand même un peu rigoler. Voilà. Et d'un autre côté, et ça c'est peut-être un peu plus surprenant, disons, il y a Clémenceau qui va commencer à faire courir des bruits à partir plutôt du mois d'avril, du coup, si j'ai bien compris, le bruit que finalement, et ça va être une tentative directe et très matérielle de saboter en fait le 1er mai, alors que autant on peut dire que ce que disait la presse monarchiste globalement, c'était pour faire peur, etc., etc., ça n'avait pas pour effet de saboter le 1er mai. Là, par contre, c'est directement le but est clairement de démobiliser la classe ouvrière en disant que en fait la CGT a été financée par les milieux réactionnaires monarchistes. Donc on joue un petit peu le côté c'est la République contre la réaction, et finalement l'extrême gauche anarchiste est du côté de la réaction.
Oui, un journal titrera justement ni révolution ni réaction. Pour faire le lien et revenir sur l'idée de complot, effectivement, donc toujours dans la presse conservatrice, il y a un peu cette idée. Enfin, même si la CGT agit au grand jour, il y a toujours cette idée un peu de main suspecte. Effectivement, on parle de, et pour relier au gouvernement, on parle pas mal du financement en fait des bourses du travail, le fait que ce soit des financements municipaux. Ou, voilà, il y a cette idée aussi d'organisation mystérieuse, clandestine ou secrète. Enfin, l'idée qu'il se trame quelque chose que la CGT manigance et donc que le gouvernement laisse faire. Et effectivement, à 15 jours à peu près quoi du 1er mai, ce qui est intéressant, c'est de voir les échanges qu'il peut y avoir entre Louis Lépine, préfet de police, le ministre de l'Intérieur, donc Clémenceau, et les différents services, où en fait on se rend compte que Clémenceau se dit en gros je peux pas laisser d'un côté la CGT préparer son mouvement si faible soit-il, espère-t-il, et en même temps laisser les conservateurs nous tirer dessus. Et par exemple, ce qui est drôle, c'est qu'il demande à Lépine de faire rechercher, donc le préfet de police de Paris, à faire rechercher s'il y a des incohérences entre les milieux monarchistes, enfin si les milieux monarchistes n'auraient pas financé la campagne de la CGT. Et deux jours après, le préfet de police lui répond que jusqu'alors, les enquêtes faites en ce sens n'ont rien donné. Et pourtant, Clémenceau décide d'effectivement, sort de son chapeau une idée totalement farfelue, donc d'un complot pour faire court entre extrême droite et extrême gauche. Et il y a notamment Pierre Monnat, qui est à ce moment-là dans le Nord, parce qu'il aide en fait à la fois la CGT locale et il a repris le journal. Enfin, il reprend un temps le journal de Benoît Brouchou, parce que Benoît Brouchou, à la suite des grèves de mars-avril, début avril, est en prison. Et il est arrêté, il est arrêté, donc je crois le 28 avril, pour complot contre la République, avec des soupçons de financement. Et dans le même temps, à Paris, il y a une descente au siège de la CGT. Et par exemple, Griffuels écrit quelques jours après, je me rappelle plus de la cause de la mise en accusation, mais il montre bien qu'en plus ils sont même pas accusés de la même chose, donc que l'accusation de complot ne tient pas, et que ce soit tant la presse révolutionnaire ou syndicaliste que la presse cléricale comme La Croix ou la presse conservatrice, ou même d'extrême droite comme par exemple la libre parole de Drumont qui écrit beaucoup et qui lui aussi alimente beaucoup cet imaginaire du complot, sauf que lui il voit aussi par exemple la main des juifs dans cette histoire, puisqu'il a ce truc d'obsession antisémite. Tous vont de toute façon dénoncer le complot, alors pas bien sûr avec la même vigueur ou avec les mêmes arguments, mais bon. Et donc ce qui fait que par ailleurs, Clémenceau et Lépine, de concert, décident de mettre ce qu'on a appelé Paris en état de petit siège, où il y a plus de 30 000 hommes, avec déjà la police quoi, déjà présente à Paris, et donc de faire venir 30 000 hommes de troupes sur Paris, si bien que à la veille du 1er mai, Paris est totalement cadenassé, enfin Paris, des quartiers de Paris, notamment tout le quartier autour de la place de la République et de la Bourse du Travail. Et ce qui donne des... Donc il y a une sorte de vent de panique un peu qui s'empare à en lire la presse, en tout cas de la population, parce que donc on a des récits... assez drôle à lire à ce moment-là, ou même des photos par exemple de files incroyables devant des épiceries, enfin voilà, les gens qui font soit des provisions soit qui courent vers les trains pour partir à la campagne. Il y a une note, alors est-ce qu'elle est vraiment vraie, de une note de la préfecture de police qui dit que la location des coffres-forts ont augmenté, etc. Enfin voilà, donc il y a encore une fois ce climat de tension et de peur à la veille du 1er mai. Et finalement, le 1er mai en lui-même, donc il y a certains mouvements qui ont commencé juste avant, mais le premier, on va dire, c'est un peu le...
Le déclencheur.
Ouais, voilà. Enfin, les corporations, différentes corporations qui se mettent en mouvement. Il y a beaucoup d'assemblées générales qui se tiennent, notamment à la Bourse du Travail. Sauf que, comme je l'ai dit, le quartier est bouclé et on voit, enfin, on trouve très facilement, par exemple, sur Internet des images de Paris le 1er mai 1906. Et c'est assez impressionnant parce que il y a toute une foule d'ouvriers, d'ouvrières, en tout cas de personnes de quartiers populaires qui sont là, avec aussi des badauds, enfin des gens très assez endimanchés, comme si il faisait assez beau ce jour-là. On était partis se promener et voir ce qui pouvait se passer le 1er mai, et donc ce qu'on appelait les dragons, donc la police montée, etc. Enfin, là il y a une atmosphère très très particulière. Et finalement, le jour du 1er mai, il y a des échauffourées, il y a des blessés. Mais il ne se passe pas grand chose, et on attend de voir ce que le mouvement gréviste en fait va donner.
Et justement, qu'est-ce qui va se passer après le 1er mai 1906? Il y a quand même malgré tout une semi-réussite, dans le sens où il y a quand même au moins 200 000 grévistes en région parisienne, et d'un autre côté il y a aussi un semi-échec qui va finalement marquer l'apogée du mouvement syndicaliste révolutionnaire, en même temps le début de son déclin, dont on a pas mal parlé avec Guillaume Davanche.
Au plus fort de la mobilisation vers le 15 mai, effectivement, il y a 200 000 grévistes. Les notes de police sont assez alarmantes, et sont plus alarmantes que la confiance qu'on retrouve par exemple chez les syndicalistes révolutionnaires, même si dans la voix du peuple, bien sûr, on pousse et on encourage bien évidemment à la mobilisation. Mais là où c'est décevant, c'est que pratiquement aucune corporation n'obtiendra la journée de 8 heures. Les typographes obtiendront les 9 heures. Mais enfin, voilà, il n'y aura pas d'avancée sociale, en tout cas directe, quoi, à la suite de ce mouvement. Pour autant, dès juin-juillet, où la CGT commence à faire un bilan, par exemple, donc Pouget dit que c'est tout à fait... il dit on a voulu, alors après on n'a pas... C'était une sorte de tremplin, en fait. Encore une fois, cette idée de gymnastique, quoi. On n'a pas obtenu les 8 heures, mais le mouvement était formidable, l'énergie, etc. Enfin, c'est vrai qu'il se satisfait assez de la pénétration, quoi, de l'idée dans les consciences. Après, pendant les quelques années qui vont suivre, on reste donc dans un temps d'agitation sociale très très fort, et avec des nouvelles, on va dire, catégories, quoi, de personnes qui entrent dans la lutte, notamment les fonctionnaires qui essayent d'avoir le droit justement de se syndiquer, qui se montrent en fédération, etc. Ou dans le Midi, chez les vignerons, enfin voilà, il y a pas mal de foyers comme ça de contestation. Et pour autant, notamment par exemple la grève des postiers de 1909 ou la tentative de grève générale que Guillaume explique très bien dans son livre des cheminots en 1910, la grève de la thune, seront très décevantes et seront, je ne sais pas si on peut dire démobilisatrices, mais en tout cas feront un peu mal à la stratégie grève généraliste qui avait été prônée pendant quasiment 10 ans par les personnes à la tête de la Confédération. Et c'est tout ça est assez progressif, mais on en vient effectivement à remettre en cause ce romantisme révolutionnaire de la grève générale qui débouchera sur la révolution, et l'idée aussi un peu de la grève générale violente, parce que expropriatrice, etc. Si l'espoir, parce que tout à l'heure, si l'espoir et l'envie sont encore là, l'efficacité, quoi, de la méthode est de plus en plus remise en cause, d'autant que à partir de 1909, et en partie parce que Clémenceau, qui est ministre de l'Intérieur et qui en plus après devient aussi en même temps président du Conseil, mène vraiment la guerre, quoi, à la CGT, et la répression est très forte, et notamment Griffels qui est de nouveau emprisonné. Et donc la lutte qui a toujours existé entre les deux courants principaux quoi, de la CGT, entre réformistes et révolutionnaires, là se renverse à la faveur des réformistes. Et donc la tactique de grève générale est vraiment remise en cause.
Oui, et ce qui fait que derrière, comme on l'avait vu avec Guillaume Davranche dans l'émission qu'on avait fait avec lui, l'idée qu'une grève générale européenne puisse finalement stopper la Première Guerre mondiale va être évoquée, mais en réalité elle sera jamais vraiment prise au sérieux par les dirigeants de la CGT. Et finalement, à partir de 1914 et le ralliement de son nouveau secrétaire général, Léon Jouot, à l'Union Sacrée, la CGT va rentrer dans une période de réformisme. Et puis ensuite, elle va se dédoubler hein, avec la naissance du Parti communiste, la révolution russe et tout ça, vers une option qui ne sera plus celle du syndicalisme révolutionnaire, mais plutôt celle du bolchevisme, c'est-à-dire finalement d'une inféodation du syndicat au parti qui prétend mener la révolution mondiale, mais une conception de la révolution mondiale qui est quand même très différente de celle du syndicalisme révolutionnaire, notamment parce qu'elle est... centré non pas sur à la limite une minorité révolutionnaire qui entraînerait les masses, mais une minorité révolutionnaire qui les dirige et, de manière dictatoriale, donc le principe hein, et la stratégie du léninisme, et où finalement l'idée du grand soir est remplacée par la prise du pouvoir par le parti et par la dictature du prolétariat, donc quand même un imaginaire qui est quand même très très différent. Et donc finalement, c'est ces deux tendances, hein, les deux tendances de la CGT et plus généralement les deux tendances du mouvement ouvrier qui vont dominer, hein, même si le syndicalisme révolutionnaire va encore un peu résister à la fin des années 1910 et au début des années 20, mais il va être progressivement broyé par la bolchevisation à partir de 1922-23. Et on a finalement le mouvement ouvrier français qui est encore là, c'est-à-dire un mouvement où vont coexister réformisme et inféodation au Parti communiste. Et puis, par certains moments, ça va juste être réformiste, hein, comme pendant la période, disons, du Front populaire, ou depuis, la déstalinisation, entre guillemets, de la CGT. Et du coup, finalement, dans tout ça, l'imaginaire du grand soir va disparaître. Parfois, il va être projeté sur d'autres pays, par exemple, la Révolution espagnole de 1936. Il va renaître un petit peu en mai 68, mais bon, est-ce que c'est vraiment l'imaginaire du grand soir? C'est peut-être compliqué de le dire. Enfin, en tout cas, il y a quand même l'idée, dans les années 68, pour un certain nombre de militants, que la révolution est imminente. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais au sujet de l'héritage du grand soir, donc après la période dont tu discutes dans ton livre?
Bah, tu l'as déjà pas mal résumé, j'ai l'impression. Après, j'ai pas fait d'études sur le XXe siècle après la Première Guerre mondiale, donc je serais moins capable d'en parler. Je sais que lors de rencontres que j'ai pu faire, de discussions autour du livre, de nombreuses personnes m'ont dit que, qu'en 68, en 95, on parlait du grand soir. Alors après, dans quel terme? Peut-être que cette dimension, vraiment, comme on disait tout à l'heure, millénariste, elle était moins présente, mais ça restait quand même une image assez positive qu'on garde à l'esprit, quoi. Enfin, pas forcément une fin en soi, mais quelque chose, une image pour laquelle, en tout cas, on a de la sympathie. Après, ce qui me semble intéressant, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, j'ai l'impression qu'il y a une renaissance de l'idée de grand soir, mais en tout cas, les idées, radicales, il y a un besoin et une envie de radicalité en tout cas, qui sont exprimées. Et pour ce qui est de l'expression elle-même, j'ai l'impression qu'elle sert par contre un peu de repoussoir parfois et qu'elle est employée, en tout cas dans l'autre camp, pour décrédibiliser, soit pour se moquer.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'imaginaire du grand soir, et même d'ailleurs dans une partie de l'extrême gauche, est devenu une espèce un peu de farce. Hein, et même si dans la bourgeoisie, c'est une farce mêlée d'un vieux fond d'inquiétude, mais ce vieux fond d'inquiétude est quand même moins fort qu'à une époque, même si pour le coup dans les années 68, par exemple, on peut dire que la bourgeoisie italienne a vraiment eu très peur. Voilà, en France peut-être un petit peu moins, mais enfin en tout cas en mai-juin 68 quand même un petit peu. Et finalement, cette expression, lorsque la conflictualité sociale est faible, elle est plus une espèce de farce, et où finalement où la presse bourgeoise va se moquer finalement des mouvements sociaux pour dire ah, vous voulez le grand soir, alors que en fait il s'agit de mouvements en général défensifs, et du coup c'est une manière finalement de les railler un petit peu. Et en même temps, effectivement, avec un renouveau d'une conflictualité sociale plus forte, comme ça commence aujourd'hui, ou en tout cas comme c'était clairement le cas dans les années 68, là, l'expression du grand soir commence à prendre, disons, un petit peu plus forme, même si elle est combattue par tout le monde, hein, par la presse bourgeoise, mais aussi dans les années 68 par, évidemment, le marxisme-léninisme qui raillait l'aventurisme, petit bourgeois, etc. etc. Peut-être que cette idée du grand soir, elle est vouée à rester une image principalement littéraire, une espèce de mythe. Mais par contre, ce qui peut être intéressant aujourd'hui, c'est de s'intéresser à l'idée, en tout cas, que la transformation sociale ne se fait pas par, enfin, ne devrait pas se faire, disons, par des réformes, ou uniquement par des mouvements sociaux défensifs, ou uniquement, ou alors par une voie plutôt politique, qu'elle soit dictatoriale ou de conquête du pouvoir, mais par l'idée d'une espèce de rupture révolutionnaire. Et c'est pour ça que, même si finalement on peut trouver cette idée un peu naïve, bien sûr, et que sans doute que les stratégies qui historiquement lui ont été associées, comme la grève générale, peuvent paraître aujourd'hui un peu obsolètes, en tout cas l'idée d'une rupture révolutionnaire, où il n'y aurait pas de phase de transition, mais où immédiatement, finalement, dans la rupture révolutionnaire même, serait créée une autre société, donc quelque chose qu'on trouve par exemple dans le courant de la communisation, en tout cas cet imaginaire paraît pertinent aujourd'hui, surtout dans une époque où où les luttes sociales commencent à remonter et où elles risquent de se faire enfermer par les vieilles lunes du réformisme ou des solutions plus autoritaires. Et même si, évidemment, ça revient pas à condamner évidemment cette remobilisation d'un imaginaire d'une rupture radicale, ça revient pas à condamner évidemment des luttes plus locales, plus modestes ou plus défensives. Mais enfin, en tout cas, c'est une des raisons pour laquelle on a fait cette émission, c'est qu'on pense que malgré tout, ce genre d'optique d'une rupture radicale avec la société existante, c'est important, disons, de le maintenir à l'esprit, et que ce n'est pas qu'une vieille lune et qu'il faudrait ranger dans les poubelles de l'histoire. Mais que ça peut être encore aujourd'hui pertinent, au moins de l'imaginer, au moins de faire, même s'il faut évidemment intégralement la repenser. Voilà, donc merci Aurélie Carrier de nous avoir présenté ce livre qu'on invite vivement à lire. Donc c'est paru aux éditions Libertalia en 2017 et on retrouve donc ce que tu as dit, mais aussi pas mal d'autres analyses, notamment l'analyse littéraire que j'ai trouvée très intéressante. Et puis la description hein, de cette préparation, des semaines qui précèdent le 1er mai 1906, qui est aussi très intéressante. Merci.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Connaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.